Bonjour à tous et à toutes. Voilà, donc ce n'est pas moi qui prêchera ce matin, c'est le pasteur qui le fera. Mais il m'a demandé de faire une courte exhortation et la suite, donc, vous verrez ce qu'il a à nous partager. Voilà, pour cette courte méditation, exhortation plutôt, quand le pasteur m'a demandé de le faire, je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je veux partager à ton peuple? C'est vrai que ce n'est pas facile. Mais vous savez que nous devons être chacun de nous toujours prêts, lire la parole de Dieu, la méditer jour et nuit. C'est ça notre salut éternel. Je me suis dit, Seigneur, ce que tu m'as donné dans ma méditation personnelle, j'aimerais aussi le partager à ton peuple. Voilà ce que j'ai à vous partager dans 10 ou 15 minutes. Il y a quelques chants que j'ai choisis pour accompagner cette courte exhortation. Le premier, nous allons chanter dans J'aime éternel 1, un cantique que vous connaissez très bien. Mon Dieu est si bon. Notre Dieu est bon. C'est vrai, n'est-ce pas? Voilà. Nous allons chanter quelques strophes. Première et deuxième strophe, pour ne pas trop monopoliser le temps. Mon Dieu est si bon, il prend bien soin de moi. C'est Dieu si fidèle, sais-tu qui pense à toi? Il voudra t'aider dans tes difficultés. Il faut que tu viennes et tel que tu es. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais, tu iras bien. Il vit à jamais, c'est un Dieu tout-puissant. Il te répondra, viens à lui simplement. Quand tout semble noir, triste et désespéré, sais-tu que là-haut, tu n'es pas oublié. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, t'es troublé chaque jour. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais, tout ira bien. Le deuxième, c'est le 157. J'ai confiance à mon Seigneur. J'ai confiance à mon Seigneur, le long du chemin. J'ai confiance à mon Seigneur, et il tient la main. À travers l'orage grondant, mon cœur reste en paix. J'ai confiance à mon Seigneur, et je suis gardé. C'est l'ami fidèle, le plus grand ami. En tout assurant, Je m'appuie sur lui. À travers l'orage grondant, oh, mon cœur est en paix. J'ai confiance à mon Seigneur et je suis gardé. À travers l'orage grondant, j'ai confiance à mon Seigneur puisque je suis ou puisque nous sommes gardés. Alléluia. Alléluia. Oui, Dieu est notre Père. Nous pouvons lui faire confiance. Quels que soient les problèmes, les circonstances, nous savons qu'il est là avec nous. Le psaume 37, verset 5 nous dit ceci. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui, ou dans d'autres versions, place en lui ta confiance et il agira. Recommande, cela concerne qui ? Nous. Nous devons recommander notre sort, notre problème à Dieu. Et puis, il dit quoi ? C'est toujours nous, mais en lui, donc nous devons mettre en lui, placer notre confiance totale en lui. Et enfin, lui, il vient, il agit. Recommandons, plaçons notre confiance en lui et notre Père éternel agira. Le psaume 55 au verset 33 nous dit aussi presque la même chose. Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Le juste ici, c'est qui ? C'est celui qui a placé toute sa confiance en Dieu. L'apôtre Pierre, dans le Nouveau Testament, 1 Pierre 5, verset 7, nous dit ceci. Après avoir recommandé, ça c'est moi qui l'ai dit, donc ton sort à l'Éternel, après avoir placé toute ta confiance en lui, après avoir remis ton sort à l'Éternel, et tu sais qu'il te soutiendra, alors déchargez-vous, nous dit l'apôtre Pierre, déchargez-vous sur lui de tout souci. De tout souci, car lui-même prend soin de vous. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Le souci ici, c'est quoi ? C'est l'anxiété, c'est l'inquiétude. Combien de fois nous sommes frappés par l'inquiétude ? Combien de fois nous sommes frappés par l'anxiété ? Bien-aimés, personne ne pourra dire que moi, je n'ai jamais eu de problème. Je n'ai jamais eu même une journée, une minute de penser à quelque chose, avoir des soucis. Nous voyons bien ici, bien-aimés, que le psalmiste, et l'apôtre Paul, nous montre une marche juste à suivre. Dieu, notre Père, est un Dieu d'amour. C'est aussi un Dieu de relations. Il veut nouer chaque jour des relations avec nous. C'est pourquoi ce matin, nous l'avons adoré. Il nous a entendus. Nous avons prié, nous avons crié son nom, nous avons reconnu sa grandeur, sa majesté, sa bonté, etc. Il nous a entendus. C'est un Dieu de relations. Il nous connaît parfaitement. Il connaît nos problèmes. Il connaît nos désespoirs. Il connaît nos soucis, nos inquiétudes, nos lendemains, la peur qui peut nous frapper, l'ouragan qui peut arriver. Tout cela, Dieu le connaît. Rien n'est au-dessus de lui. Rien ne le surpasse. Oui, bien-aimé, c'est un privilège d'être au bénéfice de cette relation d'amour avec Dieu. Mais cette relation d'amour avec Dieu, contenue dans ces contextes que nous venons de lire, bien-aimé, avant de laisser décharger tout sur Dieu, nous devons avoir une soumission envers notre Père. Nous devons nous soumettre à lui. La foi vient de ce qu'on entend. Il dit, recommande-moi, place en moi. Nous devons d'abord nous soumettre à celui qui nous demande de le faire. Sans la soumission, comment pourrions-nous être au bénéfice de cette grâce et de ces privilèges que, Seigneur, je viens avec tout le fardeau et je dépose à tes pieds. Le Seigneur nous les demande. Humilions-nous devant sa face. comme c'est le psalmiste nous dit, si nous remettons, nous recommandons à lui, il nous soutiendra. Dieu nous soutient, bien-aimés. Aujourd'hui, peut-être, ou tout au long de la semaine, vous avez ou nous avons, moi inclus dedans, des problèmes qui nous assaillent, des difficultés, des découragements. Tout cela nous dépasse. Mais que dit Dieu ce matin? Mes enfants, venez à moi, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis. Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu dans ce monde, assombri, comme on l'a dit, par le péché et la mort. Il a pris tous nos péchés. Il a dit, déchargez-vous sur moi de toutes vos inquiétudes, vos infirmités, tout ce qui vous trouble, les tribulations qui sont là. Regardons dans quel contexte le monde vit aujourd'hui. Dans quel contexte? Il y a certains qui ont la peur du lendemain. Mais Dieu nous dit à nous, ses enfants, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis. David disait dans le psaume 27, de qui aurais-je peur? De qui aurais-je crainte? Dieu est le soutien de ma vie. Dieu est le soutien de notre vie, bien-aimé, de chacun, de chacune. Il connaît tous nos problèmes. Nos projets, ce sont ses projets. L'apôtre Paul disait, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Eh bien, si Christ vit en moi, donc mes chagrins, mes soucis, tout ce que je vis, mais ce n'est plus moi qui les vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, je dois le déposer tout sur lui, parce qu'il vit en moi. Puisque Christ vit en moi, donc mes soucis, mes problèmes deviennent ses problèmes. Ce n'est plus les miens. Avons-nous le courage de le faire? Est-ce que nous sommes vraiment courageux, courageuses de le faire? Ou alors nous disons simplement, non, mais ça c'est mon problème, je le porte. Comme quelqu'un qui prend un ascenseur, après avoir fait ses courses à Carrefour, il vient avec un pack d'eau ici, un pack de lait, et puis l'autre sac ici, il monte dans l'ascenseur jusqu'au 15e étage, il ne dépose pas ça au sol. Il le porte, et pourtant que l'ascenseur est fait pour déposer. Alors c'est comme nous avons des problèmes, Christ vit en nous, j'ai mes problèmes, j'ai dit, mais non, mais Christ, tu vis en moi. Non, mais oui, oui, je sais que tu vis en moi, mais mes problèmes, c'est mes problèmes, c'est moi. Il dit, mais je suis avec toi. Si Christ vit en nous, nos problèmes ne sont plus nos problèmes. Nos problèmes deviennent ses problèmes. C'est pourquoi nous n'avons plus peur. C'est pourquoi nous n'avons plus crainte. C'est pourquoi nous avons la foi. C'est pourquoi nous savons qu'il agira pour nous dans ses problèmes. Oui, Dieu seul est capable de donner un avenir meilleur à chacun de nous. Pourquoi alors persistons-nous à porter nos fardeaux quand le Tout-Puissant, notre Père, a proposé, bien-aimé, de le porter à notre place? Il est dit ce matin, c'est une promesse, déchargez-vous sur moi et tous vos soucis. Alors pourquoi persistons-nous de continuer à porter nos problèmes? Vous savez, si nous on continue à porter les problèmes, nous n'aurons pas la bénédiction, nous n'aurons pas la délivrance, nous ne serons pas affranchis de tous ces problèmes. Ayons le courage de dire, Seigneur, voici mon problème. Dès que ça vient, même le plus petit qu'il soit, Seigneur, c'est ton problème. Voici ton problème. Moi, je me confie en toi. Que ce soit nos problèmes du passé, que ce soit nos problèmes d'aujourd'hui, présent, que ce soit les problèmes d'avenir, la peur de cet inconnu que nous ne savons pas, nous remettons tout entre les mains du Seigneur. Lui-même, il a dit que le lendemain suffit à lui-même. Donc, nous devons faire confiance à celui qui l'a dit, parce qu'il est celui qui pourvoit à tous nos besoins. Déchargeons-nous sur lui. Rappelez-vous d'une chose, l'apôtre Pierre, lui qui a écrit ce verset que nous venons de lire. Il a dit, il a expérimenté la grandeur de Dieu. Il a expérimenté que Dieu vient au secours des siens. Vous savez pourquoi je l'ai dit? Quand nous lisons les évangiles, le premier miracle que Dieu a fait dans sa vie, il a guéri sa belle-mère. La belle-mère de Pierre a été guérie. Rien n'est impossible. L'apôtre Pierre a expérimenté ça. Il a guéri. Donc toutes nos maladies, Christ a pris ça sur la croix. Il nous a guéris dans ses meurtrissures. Il a expérimenté aussi la pêche abondante. Ils n'avaient rien du tout. Toute la nuit, vous connaissez bien l'histoire. Et après, par une simple parole du Seigneur, ils ont vu la grandeur de Dieu. Dieu a donné. Et les filets même étaient prêts à craquer. Parce qu'il y avait du poisson et du poisson. La pêche abondante, miraculeuse. Nous voyons aussi l'apôtre Pierre, Dieu l'aida à payer la taxe du temple. Là aussi, les collecteurs d'impôts étaient sur lui, il faut les payer, il n'avait pas de l'argent. Nous pouvons avoir aussi des tribulations financières. Ça peut arriver à chacun de nous, que nous n'avons pas le moyen de joindre le bout du mois. Nous avons des difficultés, des souffrances. Ici, Pierre était dans cet état. Il n'avait pas de l'argent, il fallait payer, il fallait vraiment donner de l'argent. Mais est-ce qu'il a dit que ce n'est pas le problème de Jésus? Quand Jésus a vu ça, il a dit, mais Pierre, va. C'est pourquoi je vous dis, bien aimé, que nous devons obéir. Il lui a dit, va, jette le filet dans l'eau. Les premiers poissons que tu vas tirer, ouvre la bouche et tu verras le tertre des dents. Prends ça, allez donner pour toi et pour moi au collecteur. C'est ce que Pierre a fait. Il est allé, il a donné. Il a obéi. Donc Dieu est celui qui pourvoit même à tous nos problèmes, même d'argent, des maladies, des souffrances quelconques, des épreuves de toute nature. Dieu, il pourvoit. Il pourvoit à ça. Pierre a fait aussi une expérience de marcher sur l'eau. Et aussi, Dieu le délivra de la prison. Donc, nous voyons ça. Pierre a fait cette expérience de voir que Dieu, il est celui qui soutient. Et ici, il est celui qui prend soin des siens. David, n'en parlons pas. Qu'est-ce qu'il a enduré? Il a vu beaucoup de choses. Joseph, Moïse, etc., etc. Bien-aimé, oui, comment Dieu fait-il, là nous allons finir, Dieu fait-il preuve d'amour et d'attention envers nous lorsque nous nous déchargeons tous ces fardeaux, tous nos soucis sur lui? Qu'est-ce que Dieu fait? Quelle est cette preuve d'amour que nous pouvons dire, mais Seigneur, tu nous dis ce matin de décharger, mais comment et pourquoi? Quand nous le faisons, Ésaïe 41, verset 10, nous n'allons pas lire, Dieu nous donne le courage nécessaire pour affronter nos soucis honnêtement et sans enfouir. Il nous donne cette force-là, bien-aimé. Il nous donne ce courage nécessaire pour affronter nos soucis. Les soucis sont là, je les affronte, je n'ai pas peur. De qui aurais-je peur ou crainte? Dieu est le soutien de ma vie, il me soutiendra. Deuxièmement, il nous donne la sagesse dont nous avons besoin pour comprendre la situation. Si ces situations m'arrivent, d'où viennent ces situations? Éclaire-moi, montre-moi. Seigneur, si j'ai commis une erreur, pardonne-moi. Je m'humilie devant toi et j'avance. Dieu écoute et pardonne, parce que c'est un Père miséricordieux. Il nous donne la force de faire ce que nous devons faire. On a des projets. Ces projets, ce sont ses projets. Il nous donne la force aujourd'hui de faire ses projets. Philippiens 4, verset 13, il nous fortifie. Il nous donne la foi afin que nous nous confions en lui pour tout ce que nous avons à faire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et Dieu agira. Voilà, mes bien-aimés, si Dieu l'a fait pour nos grands frères, nos grandes sœurs, nos aïeux, si Dieu l'a fait quant à nous, Dieu est le même. Il est le même hier, aujourd'hui, et il le sera éternellement. Il est capable de renverser tout ce qui te chagrine à ce moment. Il est capable d'enlever cette souci qui est là en toi à ce moment. Parce que c'est un Dieu tout-puissant. Il est au-dessus de tous nos problèmes, de tous nos soucis. Même les enfants qui sont là ce matin, Dieu est capable, il connaît vos problèmes, il connaît vos soucis. Notre Dieu, il règne. Il règne encore. Et il régnera. Parce qu'il est tout puissant. Amen. Pendant que nous allons chanter ces cantiques, le dernier, donc notre Dieu règne encore. Avant que nous les chantions, je demande à chacun, nous allons prendre une minute, quelques secondes, de nous décharger. Que chacun s'incline devant Dieu. Je ne dis pas de prier, non. Ne pas élever la voix, mais c'est vers le Seigneur. Que chacun puisse parler à Dieu de tous ses problèmes, ses fardeaux. Je dis, Seigneur, ce fardeau me pèse, ça fait quelques années. Je le dépose, je le décharge. Voici, ce n'est plus mon fardeau, c'est ton fardeau. Prenons ces quelques temps pour dire que ce soit le fardeau personnel, que ce soit donc familial. Donc, ces fardeaux-là, nous les déposons en ce moment au pied du Seigneur. Amen. Nous allons chanter ces cantiques et après ça, nous prierons. Donc, pour la prière, je vais demander au frère Émile et moi-même. Et le pasteur priera en dernier parce que je lui laisserai la place. Nous allons prier et pour cette exhortation. Avant tout, je vous demande de vous mettre debout. Nous allons chanter ces cantiques.
Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Le vent se déchaîne, nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet reste vrai à jamais. Notre Dieu règne encore.
Toi.
Notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endort. Le vent se déchaîne, nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet reste vrai ou jamais. Notre Dieu règne encore.
Amen. Vous pouvez vous asseoir. J'ai demandé au frère Émile de prier pour cette exhortation. Seigneur. Jésus. Amen. Seigneur notre Père, Dieu de toutes nos solutions, toi qui es au-dessus de tous nos problèmes, rien n'est impossible à celui qui a placé sa confiance en toi. Tu ne délaisses pas, Seigneur, aucun de tes enfants. Tu es celui qui se souvient de nous. Quand nous t'apportons nos problèmes, quand nous te recommandons, Seigneur, nos problèmes, nos soucis, toi, tu les connais. Tu les savais même avant que cela, Seigneur, nous atteigne. Mais Seigneur, notre Dieu, tu ne nous as pas délaissés et tu ne nous délaisseras jamais. Tu es toujours avec nous. Tu nous soutiens. Tu nous soutiendras. Merci pour cette belle promesse de ce matin, pour nous qui sommes dans cette salle et pour ceux qui nous ont, qui sont, Seigneur, sur le Zoom, qui ont aussi suivi, qui ont entendu cette exhortation. Seigneur, tu connais aussi leurs problèmes. Seigneur, notre Père, Dieu de notre solution. Les problèmes que nous avons déposés ce matin, Seigneur, sur ton bureau de gloire, Seigneur, notre Père, tu les connais. La solution vient de toi. Le temps vient de toi. Ça pourrait être maintenant. Ça pourrait être après. Ça pourrait être dans un an. Seigneur, notre Dieu, nous te ferons toujours confiance parce que c'est toi qui nous libères de tous nos soucis et de tous nos problèmes. Merci, Seigneur, de nous apprendre cette juste marche. Seigneur, d'aller de victoire en victoire. Parce que ta victoire est notre victoire, ô Jésus. C'est pourquoi nous nous accrochons à toi. Nous déposons tous nos fardeaux entre tes mains. Seigneur, tu nous connais. Même les enfants qui sont parmi nous ce matin, Seigneur, tu connais aussi leurs problèmes. Peut-être c'est le problème à l'école. L'avenir, Seigneur, de leur scolarité. Éternel, notre Père, tu connais. Et c'est pourquoi nous le remettons aussi entre tes mains. Accorde-nous la grâce de ne pas nous soucier. Et ne pas nous inquiéter, mais de te faire totalement confiance. Toi, le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Seigneur, nos problèmes ne sont plus les nôtres. Maintenant, ces problèmes deviennent tes problèmes parce que toi, tu vis en nous par la puissance de ton Saint-Esprit. Seigneur, merci. Merci encore, Seigneur, de bénir chacun de nous.
Ce message est pour plusieurs d'entre nous. Et moi avec. C'est vrai que certains d'entre nous traversent des périodes difficiles en ce début d'année. Tout n'est pas simple par rapport à la foi chrétienne, mais on peut compter sur celui qui nous mène toujours à bon port, n'est-ce pas? Notre Dieu règne encore. Pour cette deuxième partie du message de ce matin, je vous avais proposé de réfléchir à ces questionnaires que je vous avais envoyés, que vous puissiez le remplir. Je pense que c'est... Je connais la personne, il y a une personne qui m'avait donné son questionnaire il y a bien longtemps. L'idée de ces questionnaires, c'est de pouvoir aussi nous permettre à tous, en tant que membres de cette Église, de vivre de la bonne façon dans la maison de Dieu. Les séries de messages que je vais apporter les quelques dimanches où je serai de prédication, vont s'articuler autour de ce thème, vivre dans la maison de Dieu. C'est dans la suite de toutes les formations bibliques que nous faisons depuis 2017 avec le cursus ITEA. Et ce cursus que nous avons proposé à l'Église est là pour nous affermir dans la foi. Vous savez que la foi, c'est comme la croissance d'un enfant. Quand nous naissons, nous sommes tout petits, bébés. N'est-ce pas? Nous sommes alimentés par nos mamans en général, par le lait de nos mères, et puis ensuite un peu de lait artificiel. Et nous ne prenons que cette première nourriture-là. Et au fur et à mesure que nous grandissons, notre nourriture se varie, tout en sachant que dans le lait, bien sûr, il y a tous les aliments qu'il nous faut. Et quand nous grandissons, nous avons besoin de d'autres types d'aliments. Et la foi, c'est pareil. Quand on est dans la foi, on ne reste pas tout bébé, on grandit. Comment on grandit? C'est de s'alimenter. Comment on s'alimente? On s'alimente par rapport à la parole de Dieu. La Bible dit que c'est la nourriture de notre âme. C'est elle qui nous donne de grandir. Et toutes ces formations que nous faisons depuis ne sont pas juste là de façon intellectuelle. Elles sont là certes pour notre connaissance, mais cette connaissance qui impacte notre vie et qui nous enrichit en tant que chrétiens et qui en principe nous fait grandir, nous fait maturer, nous affermit. Le thème affermi, c'est elle nous rend solide. Donc nous allons voir cette série de sujets sur ce thème, vivre dans la maison de Dieu. Et j'aimerais introduire ce matin avec un thème particulier qui est tiré de l'épître de Jean, de Jacques du moins, Jacques chapitre 1, où à la fin de cette section qui commence au verset 12 jusqu'au verset 25, il dit « Il sera heureux dans tout ce qu'il fait ». Il sera heureux dans tout ce qu'il fait. Qui sera heureux dans tout ce qu'il fait? C'est ce que nous allons voir. Et je me mets toujours dans cette même thématique de cette nouvelle année, le bonheur, être heureux, n'est-ce pas? Et j'essaie de définir avec nous ce que la Bible appelle le bonheur. Quelquefois, la définition du bonheur du monde fait partie de la définition du bonheur selon Dieu, mais pas que. Et si nous comprenons bien ce que c'est que le bonheur, alors quand nous articulons nos vœux en début d'année, nous pouvons les articuler de la bonne façon. Nous pouvons nous placer dans une bonne perspective de vie pour la gloire de notre Dieu. Mais en même temps, c'est vrai que je suis attristé par la violence dans le monde. J'ai été choqué en début de semaine par une émission que j'ai suivie. Ça se passe en Inde. En Inde, vous savez que dans cette société indienne, il y a encore des systèmes de castes. Les castes, c'est les différentes articulations de cette société qui est très hiérarchisée. Il y a des castes supérieures, donc des hommes et des femmes, des familles qui appartiennent à une caste, c'est-à-dire ceux qui sont des familles nobles. Il y a des castes intermédiaires, puis il y a des castes qui sont littéralement considérés comme des esclaves. On est au 21e siècle et ça existe encore dans certaines régions de l'Inde, bien sûr. Et les drames que certaines filles, adolescentes, jeunes filles, des castes dites esclaves, donc plus basses, subissent, c'est qu'elles se font attaquer par des jeunes gens, parfois des hommes adultes, des classes supérieures. Elles se font violer. Et parfois, elles se font mutiler, parfois, elles se font tuer. Et en fait, derrière la justice, comme la justice selon ce commentateur est fait par la caste supérieure, s'ils sont sévèrement punis, ils sont punis 6 mois, et 6 mois après ils sont libérés alors qu'ils ont tué quelqu'un. Mais en fait, c'est comme s'ils ont tué personne. Il semble que ça continue dans cette société-là. Et ça m'a choqué que des êtres humains puissent être capables de violer d'autres êtres humains. Ils ne s'arrêtent pas à la violer, mais à la mutiler. Et c'est horrible ce qu'ils font. Il y a l'une des jeunes filles dont ils ont coupé la langue, ils lui ont cassé la colonne vertébrale, ils l'ont laissée comme ça. Elle a survécu un certain temps, après elle est décédée. Et selon l'enquête, pour ne pas qu'il y ait d'autopsie, la police de cet état, qui est une police aussi de cas supérieurs, a brûlé le corps de cette jeune fille pour qu'il n'y ait pas d'enfant. Je suis attristé par la violence. Mais ce qui m'attriste le plus, c'est que j'ai toujours cru, et je crois encore toujours, que les chrétiens peuvent faire la différence. Que les chrétiens peuvent être différents. Mais je dois avouer que je réalise que ce n'est pas toujours le cas. Nous ne faisons pas toujours la différence, malheureusement. Et comme je vous l'ai dit souvent, mes prédications ne sont pas là pour nous culpabiliser, mais sont là pour nous donner de dire, on ne peut pas se contenter d'être à ce niveau-là. On doit avancer. On doit progresser. On doit ressembler à la statue parfaite de Christ. C'est notre objectif de vie. Si on est chrétien, c'est pour progresser, pour avancer vers cette statue parfaite, pour ressembler à notre aîné. Notre aîné, c'est le Christ. Il est le premier fils de la grande famille de Dieu. Vivre dans la maison de Dieu, vivre dans la famille de Dieu, notre aîné. C'est le Christ, c'est lui qui est notre modèle. L'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs, comme moi-même je suis imitateur du Christ. Et j'aimerais nous encourager ce matin. Je crois que si nous n'espérons pas en Jésus, si nous n'espérons pas en sa parole, il n'y a pas d'espoir. Il n'y a pas d'espérance pour notre société. Jésus l'a dit clairement dans les évangiles. Il dit, c'est par l'amour des chrétiens que le monde saura que Dieu est un Dieu d'amour. nous sommes, j'ai envie d'utiliser un terme qu'on utilise trop souvent de façon très active, nous sommes comme le dernier rempart pour montrer aux hommes qui est Dieu. C'est nous qui devons le montrer. C'est nous qui devons vivre ce que Dieu veut que les hommes vivent. C'est nous qui devons donner cette espérance dans ce monde. Alors, parfois, je me mets aussi à rêver comme un certain Martin Luther King. Je suis tout petit par rapport à lui. Mais n'empêche que chaque chrétien peut rêver. C'est pour ça que je vous ai donné ce questionnaire. Qu'est-ce que vous rêvez pour cette église? Qu'est-ce que vous rêvez pour cette église? Quand vous priez pour cette église, qu'est-ce que vous voulez voir Dieu faire des hommes, des femmes, des jeunes, des enfants de cette église? Qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse? Moi, je rêve en tout cas d'une église dans laquelle les chrétiens et les chrétiennes feraient la différence par rapport au monde. Une église dans laquelle les familles feraient la différence par rapport aux familles du monde. Je rêve que cette différence se manifeste massivement et quotidiennement dans notre conduite, dans nos choix de vie, dans nos principes, dans nos valeurs, basées profondément sur la bonne compréhension de la Bible. Voilà mon rêve. Et ce rêve, Dieu seul sait que je l'articule dans mes prières. Elle m'anime constamment quand je pense à notre église. Elle me conduit à prier. Elle me donne aussi, comme l'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps à cause de cette excellence de la recherche de l'Église. Il y a quelqu'un qui a prié pour l'Église, qui s'appelle André Dumas. Je vais voir si je peux juste afficher, si je peux juste partager mon écran et afficher ce texte à partir d'ici. Il s'appelle André Dumas, et il a écrit un livre qui s'appelle « Quand je pense à l'Église ». Et il dit « Quand je pense à l'Église, je la voudrais telle qu'elle n'est pas. Attirante, engageante, percutante, militante, sans doute aussi variée et universelle, secrète et évidente, riche et nourricière, pauvre et véridique, surprenante et solide. Bref, j'aimerais, mon Dieu, que ton Église, qui est notre Église, m'offre tout ce que je ne lui donne pas. Tu la connais aussi bien et mieux que moi, cette église, qui fume souvent à peine comme une bougie épuisée. Tu la connais trop petite pour ta grandeur et trop grande aussi pour notre petitesse. Une église mal aimée et du coup mal aimante. Une église dont la fidélité devient répétitive et l'infidélité habituelle. Une église qui se paie de mots et qui contribue à enténébrer la vie de bons sentiments inutiles et d'accusations décourageantes. Alors, mon Dieu, fais que je cesse de blâmer l'Église pour me dispenser moi-même d'y travailler. Fais que je cesse de lorgner ses déficiences par le trou de sa serrure pour me protéger moi-même de franchir sa porte. Fais que je quitte le banc des spectateurs et des moqueurs pour m'asseoir sur le banc des acteurs et des célébrants. Car ainsi seulement, je m'arrêterai de regarder ton Église, qui est notre Église, pour vivre avec les autres. Tu la convoques et tu la rassembles. De jour en jour, comme sans cesse le berger rattrape la brebis qui boite et qui s'attarde, comme sans cesse la raccommodeuse rattrape l'émail qui file et qui déchire. Ton fils est la tête d'un corps aux membres disjoints. Il est le premier-né d'une famille d'enfants séparés. Il est la pierre angulaire d'une maison inachevée. Mais c'est bien à l'Église que tu tiens, et non pas seulement aux individus qui se préfèrent chacun eux-mêmes, car c'est bien à l'humanité entière que tu tiens, et non pas seulement aux membres d'un club. Ton Église est ainsi le signe visible de ton dessein total. J'hésite à l'appeler ma mère, car elle ne m'a pas engendré, mais je l'ai rencontrée. J'hésite à l'appeler ma sœur, car nous ne sommes pas liés par l'obscurité du sang, mais par la liberté de l'esprit. Mais je veux bien l'appeler ma famille, car je lui suis attaché pour le pire et pour le meilleur. c'est ma nouvelle famille, dont tu as l'initiateur, dont tu es l'initiateur, ton Fils le libérateur et ton Esprit le rassembleur. Amen. Cette prière, au départ, c'est une prière qui s'articule un peu avec une forme d'ironie. Il dit, je veux que l'Église soit tout ce que je ne peux pas moi-même aider l'Église à être. Il dit que trop souvent, nous les croyants, nous les chrétiens, nous critiquons beaucoup l'Église, mais nous aidons très peu l'Église à devenir ce que nous souhaitons qu'elle soit. Et il dit, moi je vais quitter maintenant le banc des spectateurs. Moi je vais quitter le banc de ceux qui sont là toujours pour voir ce qui ne marche pas dans l'Église. Mais je vais m'asseoir sur le banc des acteurs. Je vais être un acteur. Je vais être quelqu'un qui célèbre. Il dit, oui, l'Église est à la fois divine et humaine. Et parce qu'elle est à la fois divine et humaine, parfois, tout ne va pas bien. Mais c'est à celle-là que Dieu tient. C'est cette église humaine, avec ses faiblesses, que Dieu aime. Il dit, au lieu de continuer à regarder les faiblesses de cette église, moi, je veux m'engager avec elle pour l'aider à avancer. Et ce matin, mon rêve aussi s'articule autour de cela. C'est aussi le sens de mon engagement dans la foi. Très tôt, le Seigneur m'a donné d'aimer cette église, l'église du Dieu vivant. Je me suis très vite habitué à ne pas critiquer pour critiquer. Je me suis vite habitué, quand je critique, je cherche aussi comment je peux aider. J'ai trop vite compris que quand on critique, c'est facile. Parce qu'on n'est pas à la place de ceux qui font. Et quand on commence à faire, on dit, oula, 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 oula. C'est vrai que c'est un peu compliqué. Et donc j'aimerais qu'avec ces trois textes de ce matin, nous puissions être encouragés. Brièvement, parce que je continuerai cette série dans les jours qui viennent. Jacques chapitre 1, versets 22 à 25. Il dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui après s'être regardé s'en va et oublie aussitôt qui il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Celui-là sera heureux dans son activité. Il sera heureux dans tout ce qu'il fait. Jacques chapitre 2, verset 14, verset 17, verset 19, verset 22, verset 26. Je lis le verset 14. « Mes frères, à quoi cela sert-il à quelqu'un de dire « j'ai la foi » s'il ne le prouve pas par ses actes ? Cette foi peut-elle le sauver ?» Verset 17. « Il en est ainsi de la foi. Si elle ne se manifeste pas par des actes, elle est qu'une chose morte. » Verset 22. « Tu le vois, sa foi et ses actes agissent ensemble. Sa foi est parvenue à la perfection en raison d'exacts qui l'accompagnaient. » Verset 26, « En effet, de même que le corps sans le souffle de vie est mort, de même la foi sans les actes est morte. » Galates chapitre 5, verset 16, 17, 22 à 26. Verset 16, « Voici donc ce que j'ai à vous dire. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie, et vous n'obéirez plus aux désirs de votre propre nature, car notre propre nature a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit a des désirs contraires à ceux de notre propre nature. Ils sont complètement opposés, l'un à l'autre, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. » Verset 22. « Mais ce que l'Esprit Saint produit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. La loi n'excède pas contre de telles choses. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont fait mourir sur la croix leur propre nature avec ses passions et ses désirs. L'Esprit nous a donné la vie. Laissons-le donc aussi diriger notre conduite. Ne soyons pas vaniteux. Renonçons à nous défier ou à nous envier les uns les autres. » Voilà trois textes que je vous propose dans une lecture brève ce matin. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. C'est un conseil de sagesse. Mais au-delà d'être un conseil, c'est une recommandation de l'apôtre Jacques. Il dit, pour que nous soyons des chrétiens heureux dans tout ce que nous faisons, nous devons être capables, à chaque fois que la Bible nous parle, de dire, ok, elle m'a dit ça, je l'écoute et je vais me mettre à le pratiquer. Il dit, sinon, on est comme quelqu'un qui, avant de sortir de chez lui, comme nous tous on le fait maintenant, à regarder dans le miroir, a bien vu que quand il s'est levé, il n'a pas lavé son visage, donc son visage n'est pas en bon état pour sortir, a bien vu que tout n'était pas parfait, mais quand même est sorti de chez lui. Il dit franchement, il y a très peu de gens qui font ça. Il y a très peu de gens normaux qui font ça. Il dit malheureusement, c'est ce que nous faisons en tant que chrétiens. Nous méditons la parole, nous l'écoutons, nous l'étudions, et après, nous ne faisons pas concrètement, pertinemment, profondément, persévéramment, durablement, ce qu'elle nous recommande de faire. Il dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Écouter, c'est bien. Entendre, c'est mieux, mais pratiquer, c'est encore meilleur. Jésus disait, heureux ceux qui ont des oreilles pour entendre. Il dit, ne soyez pas des auditeurs. Si nous voulons être des femmes et des hommes, des chrétiens qui faisons la différence dans un monde en désespérance, nous devons ne pas nous borner à écouter, mais aussi à appliquer la parole de Dieu dans nos vies. Parfois, elle est plus difficile à appliquer dans des moments compliqués. Parfois, elle est plus difficile à appliquer dans des choix qui sont des choix difficiles. Parfois, elle est de plus en plus compliquée à vivre quand c'est des choix... C'est des choses qu'on aime bien, mais en même temps, on sait que peut-être c'est pas ce que Dieu veut. Mais en même temps, on aime ça. Et on a du mal à choisir. Comment on peut être que Dieu nous aide? Quand on écoute la parole souvent, quand elle nous remet en cause, quand elle dénonce des choses dans ma conduite chrétienne, c'est là que c'est le plus compliqué. Quand c'est le cas, souvent, on a trois réactions. Soit on dit, ok, elle m'a fait du bien. Soit on dit, ça m'ennuie un peu. Soit ça nous met mal à l'aise et on ne fait rien avec ça. Que Dieu nous aide. Quand Dieu dit, je te bénis, ça nous plaît. De toutes les façons, qui de nous ne veut pas une bénédiction? Et c'est bien d'ailleurs. Mais quand Dieu voit en nous des choses qui ne vont pas, quand Dieu voit en nous des choses qu'il veut voir progresser, quand Dieu voit en nous des choix de vie que nous avons faits qui ne sont pas selon sa gloire et qui nous en parle, là, ça devient compliqué. Bien-aimés, ne nous bornons pas à écouter la parole, mais à la pratiquer aussi. À quoi cela sert-il à quelqu'un de dire « j'ai la foi » s'il ne l'approuve pas par ses actes? Jacques dit que les actes dont la foi a besoin pour vivre, c'est les bonnes œuvres que Dieu nous demande de faire. Il prend un exemple, il dit, on t'a parlé de l'amour du prochain. Vous êtes dans une communauté chrétienne, et il dit, vous avez constaté que c'est l'hiver, et que l'un de vos frères n'a même pas un manteau, qu'il a juste une petite veste sur lui. Et vous savez bien que ce n'est pas parce qu'il est résistant au froid, mais vous connaissez à peu près sa situation dans l'église et tout le monde lui dit à dimanche prochain frère, va, rechauffe-toi bien. Jacques dit, ça c'est quelle foi? Et il dit, la foi, ce serait de dire, bien aimé, en se rapprochant du frère, je constate que tu n'as pas de manteau. Est-ce qu'il y a... Mais on a peur même de poser des questions comme ça. Parce qu'on a peur de la réaction de l'autre, parce qu'on a peur que l'autre nous dise, mais de quoi tu te mets? Mais si on est la famille de Dieu, si on est la maison de Dieu, est-ce qu'on doit avoir peur de me poser des questions? Est-ce que même je dois avoir peur de la réaction de mon frère? Est-ce que dans ma famille, quand je pose des questions à mes frères de sang, est-ce que j'ai peur de leur réaction? Si c'est le cas, c'est un peu dommage, parce que c'est la famille. Si dans la famille, moi, je ne suis pas capable de poser des questions à mon frère, qui va le faire? Qui va le faire? Si dans une famille, on n'est pas capable de discuter entre nous, ça veut dire qu'il y a un souci. Bien aimé, comme André Dumas l'a dit, l'église de Dieu, c'est la maison de Dieu, c'est la famille de Dieu. Je rêve d'une église où les chrétiens font la différence. Où on ne vit pas dans l'église, qu'on vit dans nos familles. Nos familles, parfois, on a des relations brisées, on a des relations inachevées, on a des relations qui sont restées en bisbille. On ne prend pas toujours le temps de les construire ou de les restaurer. Ou parfois, on a essayé, ça n'a pas marché. Et parfois, on retranscrit ça à l'église. Non, l'église ici, c'est la maison de Dieu. C'est une maison d'espérance, c'est une maison d'espoir, c'est une maison d'amour. C'est une maison où on vient se recharger en amour pour être capable d'en donner à l'extérieur. Parce que Christ est au milieu de nous. Parce que sa parole est la source de la vie. À quoi cela sert-il à un homme de dire qu'il a la foi s'il ne le prouve pas par ses actes? Enfin, l'Esprit nous a donné la vie. Laissons l'Esprit de Dieu conduire nos conduites. Et il dit, quand l'Esprit nous conduit, nous connaissons. Le texte, il est là. Regarde ce texte. Galates chapitre 5, versets 22 à 25. Il dit, voici ce que l'Esprit fait dans la vie de quelqu'un qui est chrétien. Voici ce que l'Esprit fait dans la vie de quelqu'un qui est chrétien. Voici les fruits qu'on doit avoir dans la conduite de cette personne. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Je n'ai pas le temps ce matin de rentrer dans tous les détails. J'avais déjà fait cette méditation. Mais ça serait intéressant pour passer cette étude. De prendre Galates chapitre 5, 22 à 25 et de regarder. Et de dire, ok. Et même vous prenez une feuille, vous mettez tous ces éléments que Dieu attend dans la maturation d'un chrétien. On parle du fruit, donc on parle d'un fruit à maturité. Et puis vous regardez votre vie. Puis vous dites, est-ce que cet élément, à l'école du dimanche, les monétiques sont faits, hein, je crois il y a 2 ans ou il y a 1 an. Et moi j'ai gardé encore les fiches, c'est des très belles fiches. Elles ont fait aussi avec les armes de Dieu, avec les fruits de l'esprit. Elles ont même très actualisé avec des bananes et tout ça. Et c'est intéressant de voir ça et de voir votre itinéraire. Est-ce que vous êtes sur le bon? Est-ce qu'en cela nous sommes sel et lumière? Est-ce qu'en cela nous faisons la différence? L'Esprit nous a donné la vie. Nous qui sommes chrétiens, c'est le Saint-Esprit qui nous a touchés et qui nous a donné de nous tourner à Dieu et qui nous donne d'être sensibles à la parole de Dieu, d'être sensibles aux choses de Dieu. Si c'est vrai, l'apôtre Paul dit, mais si c'est vrai, laissez-le aussi vous indiquer. Mais il vous a déjà indiqué, il nous a indiqué la conduite à vivre. Pourquoi nous le vivons? C'est la question. Pourquoi nous le vivons? Je me demande pourquoi j'ai l'impression que notre conduite des chrétiens et des chrétiennes, voire parfois dans l'Église, manifeste de moins en moins les fruits de l'Esprit. Je ne parle pas que d'ici. Et je ne parle pas d'ici parce qu'ici, je vois beaucoup de choses qui sont positives. Mais quand je fais une somme générale, je suis triste de toutes ces divisions qu'il y a dans les Églises, de toutes ces balades qu'il y a dans les Églises. L'Église n'est pas le lieu des tensions, n'est pas le lieu des divisions, n'est pas le lieu des balades. De toutes ces incompréhensions dans les églises. Si ça continue, il n'y a pas d'espérance pour eux. Il n'y a pas d'espoir. L'église est l'appui et la colonne de la vérité. C'est la famille de Dieu. Et c'est là que Dieu veut que tous les hommes qui souffrent, qui sont désespérés, qui sont chargés, viennent trouver une parole, une vie, une source pour prendre de l'espoir. Mais si l'église donner ça, mais vous fermez les portes et rendre les clés et faire autre chose. Mais je ne parle pas d'ici, mais ça doit nous interroger. Je dois nous interroger. Je prends le dessin sombre et je le fais exprès. Parce que parfois, il nous faut être dans l'électrochoc pour nous faire avancer. On dit les moteurs à explosion, il paraît que ça va commencer à finir puisque maintenant on est rentré dans les moteurs électriques. Mais les moteurs à explosion bougent par des explosions. Hein, ça s'appelle une explosion. Parce qu'il y a des petites explosions dans le moteur qui font que le moteur tourne. Je ne suis pas spécialiste, mais c'est ce que je comprends. Et ça veut dire que parfois dans la vie, pour que ça bouge, il faut des petits chocs. Il faut des petits chocs. Et quelquefois, si on ne s'arrête pas pour se choquer soi-même, on n'avance pas. Et parfois, les échecs servent à ça dans la vie. Les échecs sont comme des électrochocs. Oula, je pensais pas que j'allais. Et puis ça te fait mal, ou tu as mal en toi-même et quelquefois, soit ça te fait plonger, soit ça te donne une force que toi-même tu ne soupçonnais pas que tu avais. Parce que ça te décide d'une autre façon à rejaillir, à rebondir, à te relever. Bien-aimé, je prie que tu sois heureux, que tu sois heureuse dans ton activité de 2021. Mais je veux... veut que nous soyons heureux d'abord en tant que chrétiens et chrétiennes. C'est notre première identité. Et Jacques dit, si nous voulons être des gens heureux et heureuses selon Dieu, nous devons mettre la parole de Dieu en pratique. Nous devons mettre la parole de Dieu en pratique. Il dit, si nous faisons ça, nous sommes des gens, nous sommes des hommes, nous sommes des femmes, nous sommes des jeunes, nous sommes des moins jeunes, heureux, heureuses. Psaume 91, versets 14 et verset 16 pour terminer. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. C'est ce que Dieu réserve à celui qui lui fait confiance et qui met sa parole en pratique. Psaume 37, versets 3 à 6. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Il fera apparaître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. C'est ce que Dieu fait pour celui qui met sa parole en pratique. Ésaïe 43, versets 1 à 4. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé. Ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas, car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. C'est Dieu qui dit cela de nous. Même quand nous sommes infidèles, nous avons toutes ces promesses. Alors, essayons d'être fidèles à notre Dieu. Essayons d'être fidèles à notre Dieu. Essayons d'être fidèles.